Bonjour à tous et bienvenue dans cette première embellie de 2022, réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Maxime Goudard. Porter son regard cette semaine sur une affirmation du poète romantique allemand du XVIIIe siècle Novalis au sujet des fleurs. Pour l'anecdote, j'ai essayé de trouver un synonyme du mot fleur afin de ne pas faire de répétition, mais sans succès. Si vous avez une autre façon de les désigner, n'hésitez pas à m'écrire sur le réseau commençant par la lettre T. J'espère que la joliesse de la citation éludera ma redondance. La fleur est un être entièrement poétique et c'est Novalis qui l'atteste. Directeur de création olfactive de la maison de parfum Le Couvent, notre invité a été le nez exclusif d'Hermès pendant 14 ans. Il exerce aujourd'hui comme parfumeur indépendant. Il vient de publier avec Lionel Paillès un petit lexique des amateurs et prix d'odeur et de parfum aux éditions Actes Sud.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Jean-Claude Elena.
Bonjour Eva.
Êtes-vous content d'avoir été mis au monde ?
Ah oui, 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 oui. À la fin, oui, oui, c'est très bien.
À ouais. La fin, oui, mais donc pas au début.
Ah, au début, c'était un petit peu difficile. Il fallait que je me trouve parce que j'étais égaré complètement, mais je me suis trouvé dans le parfum. Je me suis retrouvé dans le parfum, dans les odeurs. Donc c'est les odeurs qui ont fait mon chemin. Mon chemin a été fait d'odeurs.
Et ça a mis du temps.
Non, parce que je suis rentré dans l'industrie du parfum à 16 ans.
Oui, donc comme très laborantin tôt,
même, oui, comme laborantin, et puis à distiller, à travailler dans les alambics. Et, oui, donc c'était dans l'univers du parfum, au sens direct, physique, et non pas encore intellectuel, comme ça va venir plus tard. Donc oui, c'était ça, au départ.
Êtes-vous en bon terme avec vous-même ?
Oui, plutôt, oui. Oui, plutôt.
Et ça a toujours été le cas ?
Oui, je suis plutôt...
Vous appréciez votre propre compagnie ?
Ouf, oui.
Vous n'essayez pas de vous fuir ?
Non, si je pouvais me décrire, je suis un pessimiste heureux.
Ah oui.
Donc, tout est dit là-dedans. Heureux, mais pessimiste.
Alors, on pourrait dire lucide. Jean-Claude Elena, il y a deux choses qui vous donnent envie de vous lever, la lumière et revoir votre femme. C'est une très jolie idée, c'est un petit adieu chaque soir avant de dormir, c'est ça ?
Où c'est que vous avez trouvé ça ?
Non, je ne sais pas, parce que oui, revoir votre femme, j'imagine que vous la voyez tous les jours.
Oui, je la vois tous les jours et j'ai le plaisir à la voir le soir comme le matin. Et je dirais même, j'attends son lever avec plaisir.
Bah, c'est très joli, c'est très joli. Les jours sans lumière, ça vous atteint ?
Ah oui, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de chaleur.
Ah. Oui.
Aujourd'hui, c'est un peu gris, mais oui. Bon, voilà.
Comment est-ce que vous remplacez la lumière physique quand il n'y en a pas ?
Par la création.
Il va être question beaucoup de création dans cette émission, et aussi, entre autres, de Passion, de Giono, de Bill Evans, de Danse Profane, de Turner, d'Henri Laborie et de Pratiques Artistiques. On découvre tout ça avec vous, Jean-Claude Elena. On a jusqu'à 11h.
L'embellie sur France Inter.
Thank you.
Léonie Pernet, Il pleut des hommes dans l'embellie sur France Inter. Nous sommes avec le parfumeur Jean-Claude Elena, et je dis le parfumeur, mais je devrais dire le compositeur de parfums, puisque dans le petit lexique des amateurs épris d'odeur et de parfums, justement, vous revenez sur cette désignation, puisque souvent c'est confondu avec le magasin.
Oui, c'est ça le problème. Donc, compositeur, c'est celui qui compose des parfums, ce qui désigne mieux ma fonction, je veux dire mon métier.
Alors, cher compositeur de parfums, aimez-vous le monde dans lequel vous vivez ?
Oui, j'apprécie le monde dans lequel je vivais et je n'en voudrais pas un autre, ni vivre une autre époque.
Réponse réjouissante et rare. Dans la société, je vous ai demandé ce que vous aimeriez changer et vous parlez de l'esprit de la consommation. Votre grand-mère vous disait « achète une chaussure de qualité, mets le prix, elle te durera longtemps et tu feras des économies ». Elle avait raison. C'est un conseil que vous avez toujours suivi ?
Oui, je suis allé à ce côté-là qui est... Je trouvais qu'elle avait diablement raison. Et ceci dans tous les domaines, pas que les chaussures, les habits, les choses. Enfin bref, dans tous les domaines, c'est. Mais le prix, mais tu vas le garder très longtemps et à la fin, ça fera des économies. Et du point de vue, à mon avis, économique, non pas que de mon côté, mais de l'autre côté industriel, c'est beaucoup plus rentable. Parce que moins de gâchis.
Bien sûr.
Et tout le monde est gagnant.
Oui, c'est vrai, avoir un beau pull qui dure 10 ans ou plus.
Oui.
Plutôt que d'en acheter tout le temps à
bas prix.
En parfumerie aussi, est-ce que vous utilisez des éléments précieux ? Je sais qu'il y a une entrée justement du petit lexique où vous parlez de Edmond Rudnitska, auquel vous avez succédé dans la collection Que sais-je sur le parfum.
Oui.
Et justement, il dit qu'avoir des composantes précieuses, ça ne garantit pas un bon parfum.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas plus qu'avoir les plus belles carottes, les plus belles pommes de terre, les plus belles asperges. Si vous ne savez pas faire la cuisine, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, oui, mais il faut savoir travailler avec.
Avec toi, il faudrait toujours vivre.
Avec la réalisatrice Juliette Gou, on passe des titres qu'on trouve rigolos et qui illustrent d'une façon parfois très approximative le sujet. Mais qui nous en voudra de diffuser cet extrait de La Passionata, chanson interprétée par Guy Marchand en 1965, pour illustrer ce qui vous fait vous impliquer, Jean-Claude Elena, la passion, la défense de trois petits points. Alors j'imagine que ça ne concerne pas que les fragrances. Que défendez-vous ?
Qu'est-ce que je peux défendre? Mais je reviendrai au niveau, à nouveau, à la notion de consommation. C'est de consommer peu et consommer bien et savoir prendre son temps pour choisir. Parce que choisir, c'est très important. Non pas consommer à la légère en appuyant sur un bouton et pour l'économie générale et pour tout le monde, chacun y a droit à son compte. C'est ça, faire son compte. Donc, oui, en premier ça, et ça va changer la vie. Ça peut changer la vie.
Il est rare qu'on reçoive dans cette émission des compositeurs de parfums, donc j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de votre métier. Êtes-vous parfois lassé? Y a-t-il un automatisme ou une routine qui peut menacer dans la composition de parfums?
Ben, je vais vous répondre non. C'est-à-dire, alors, ça m'est arrivé de... Allez, j'y vais commencer à travailler ou pas. Et une fois que je me mets à la balance, à peser mes produits, à peser mes formules, à sentir les odeurs, d'un seul coup, sentir, quel plaisir, d'un seul coup, le monde se réenchante. Et donc, oui, ça y est, c'est parti, ça revient. Et tout redevient beau, tout redevient ensoleillé. Et donc, voilà, il faut se donner un petit coup aux fesses et puis repartir. Alors, c'est pas tous les jours, mais oui, ça arrive.
Y a-t-il des odeurs qui vous dégoûtent? Je crois que certains parfums vous donnent la nausée, Jean-Claude Elena, je l'ai lu dans le Petit Lexique. Vous ne vous parfumez pas? Je vous ai posé la question à rendez-vous.
Alors, je ne me parfume pas. Alors, il y a une raison très simple, c'est que si je me sens, je m'analyse. Donc, ça va déranger ce que je suis en train de faire. Et donc, je me parfume... Oui, pour être neutre, le plus neutre possible, je ne vais pas me parfumer. Quant aux parfums qui me donnent des fois la nausée, ce sont les parfums les plus forts. Quand ils sont très intenses, je trouve que je prends une gifle. Ça me dérange terriblement. Il y a une espèce de gêne ça me fait reculer. Et moi, j'aime la notion de parfum quand j'avance vers vous, quand je vais près de quelqu'un, lui dire, mais qu'est-ce que tu sens? Et le qu'est-ce que tu sens, c'est déjà une porte d'entrée pour entrer dans son intimité.
Ah oui. Si vous étiez une plante, vous dites dans une interview que vous seriez un jasmin.
Oui, ça, ça faisait référence à Jean Giono, qui disait, je me souviens plus très bien quels étaient les mots, etc., mais c'était sa mère qui lui conseillait, soit un jasmin pour tout le monde. Et je trouvais que la formule était jolie, et sentir le jasmin pour tout le monde, oui. C'est une offrande, c'est un cadeau.
Oui. Vous le citez dans le lexique d'ailleurs. Alors là, je vais soulever un aspect qui fâche de l'époque avec cette épidémie internationale, le Covid, qui cause entre autres la perte de l'odorat, l'anomie. Mm-hmm. C'est un sens si important et qu'en fait on néglige.
Alors, moi, à quelque part, je trouvais que le Covid a servi à quelque chose, c'est de prendre conscience, que l'odeur est quelque chose d'important et que... Vous existez par l'odeur, et si je peux me sentir, j'existe. Et si j'existe, je peux avoir des désirs. Et donc, à l'absence d'odeur, l'absence de désir, c'est la mort. C'est vraiment, ça conduit vers la mort. Donc c'est absolument terrible. Donc cette prise de conscience de l'odeur, d'un seul coup, c'est... Ah oui. Et donc, je dirais presque dorénavant, peut-être les gens, en mangeant, juste en dégustant, d'un seul coup, ou en buvant un verre de vin, vont dire... C'est vraiment bien. Et non pas juste le consommer pour le consommer, pas le boire pour le boire, juste le appréhender, le toucher, l'être proche de l'odeur, de dire, oui, je passe il y a un soupçon comme ça, un moment très intime, très agréable, qui fait que dire, oui, cette chose-là, oui.
Savourer, déguster, oui, plutôt que consommer, on y revient.
Voilà.
Vous étiez un peu prédestiné, Jean-Claude Elena, à la parfumerie, vous êtes né à Grasse.
Oui, fou. Je suis né à Grasse, mais ça, c'est pas un choix.
Oui, bien sûr, non, c'est jamais un choix de naître.
Non.
Votre père était parfumeur?
Mon père était parfumeur.
Et votre fille est parfumeuse?
Et ma fille est parfumeur, oui.
C'est incroyable. Tous les arts sont source d'inspiration pour vous?
Tout est source d'inspiration.
Oui.
Alors après, le problème d'inspiration... Alors le mot inspiration, c'est quelque chose que j'aime pas trop. C'est un mot que j'aime pas parce que derrière inspiration, c'est presque... Un automatisme, c'est comme si je vous donne quelque chose, ça va vous inspirer. Ben non, ça marche pas toujours comme ça. Je pense, j'aime bien l'idée du choc, d'une idée, d'une rencontre. Le mot de rencontre me plaît encore plus parce que il y a des rencontres qui se font et d'un seul coup vous dites, ah oui, ça c'est intéressant. Alors la rencontre, c'est peut-être un mot que vous lisez dans un livre, ça peut être une rencontre avec une odeur, ça peut être une rencontre avec une personne et d'un seul coup, ça génère l'impulsion. Le besoin de faire quelque chose.
Par exemple, il y a des rencontres qui peuvent être assez poétiques, comme pour le couvent, les eaux de parfum singulières,
oui.
Qui sont inspirées des découvertes du botaniste voyageur Louis Feuillet et des animaux majestueux qui ont croisé un jour son chemin.
Oui, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire que j'ai un animal et comment je vais l'exprimer, cet animal? Et donc, à travers l'animal, il y a le caractère d'une personne aussi, mais donc il y a une espèce de travail par la métaphore qui fait que, oui, comment je vais l'exprimer? Est-ce qu'il est nerveux? Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il est langoureux? Est-ce qu'il est à l'anguille? Est-ce que... Voilà. Et tous ces mots peuvent se transformer en odeur. Et là, ça devient intéressant. Parce que j'ai matière à rendre en olfactif, à rendre en odeur un sujet, un thème.
Je ne suis pas qualifié pour vous charger d'une mission quelconque. Enfin, je ne suis plus qualifié. Retraite professionnelle et retraite du monde. On ne doit même plus savoir qui je suis.
Oh, je serais bien étonné qu'on ne sache plus qui vous êtes, monsieur le procureur. De toute façon, moi, je le sais.
Je voulais dire que je ne pourrais pas vous couvrir. Je ne suis plus qu'un simple particulier.
Je ne demande pas à être couvert.
Je le savais. Vous connaissez Prébois?
Oui, de...
Non, de ce côté. Cette maison désoriente. À une demi-lieue de ce côté, vers la forêt, une cinquantaine d'habitants en train de mijoter sous la neige. Nous sommes le 17 décembre. Il y a donc 5 jours. Une jeune fille, a disparu du village.
Charles Vanel et Claude Giraud dans le film Un roi sans divertissement de François Le Terrier, adapté du roman éponyme de Jean Giono paru en 1947. Giono qui signait également le scénario du film. Mm-hmm. Ce roman a été très important pour vous, Jean-Claude Helena, notamment en ce qui concerne la notion d'ennui. Et pour expliquer aux auditeurs pourquoi, il faut un peu situer l'intrigue.
Donc cet homme va découvrir le meurtrier.
C'est le commandant Langlois qui arrive dans un petit village.
Le commandant Langlois rentre dans un petit village et puis il va être à l'écoute des gens qui habitent ce petit village. C'était jour de neige, il fait très froid, c'est en hiver, etc. C'est bon. On est dans le noir, là, on est le noir et le blanc. Et tout le film est en noir et blanc. Et oui, c'est assez dur, c'est assez douloureux. Et petit à petit, il va découvrir le meurtrier. Le meurtrier dit qu'il va découvrir que le meurtrier assassine parce qu'il s'ennuie. Et c'est un moment très très fort parce que sans raison, la raison c'est l'ennui. Et moi ça m'avait énormément, enfin touché, vraiment très très touché. D'autant plus que j'ai peur de l'ennui.
Mais alors ça se sent, Jean-Claude Helena. Alors le titre du roman vient de la pensée de Pascal, un roi sans divertissement oui. Est un roi plein de misère. Et l'ennui semble vous obséder, parce que par exemple dans le petit lexique des amateurs épris d'odeur et de parfum, à l'entrée alcool, il est écrit « l'ennui qui est la pire des choses quand plus rien n'est à créer ».
Oui, j'ai écrit ça, oui, c'est absolument terrible.
Mais non, est-ce que vous ennuyez facilement?
Non, je ne m'ennuie pas facilement, mais j'ai peur de l'ennui. C'est-à-dire que... S'il y a un semblant d'ennui qui pouvait arriver, d'un seul coup, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ce sera soit peindre, soit écrire, soit faire du. Oui, soit penser parfum. Soit... Donc, un besoin d'évasion et, oui, de peur de l'ennui.
Et pourtant, l'ennui, il paraît que c'est le meilleur des terreaux pour créer, justement.
La peur de l'ennui.
Ah, la peur de l'ennui. Oui, mais il paraît qu'il faut s'ennuyer pour avoir des idées.
Oui, mais je partage aussi cette idée-là. Je pourrais même utiliser le mot bien célèbre aujourd'hui et en même temps. Mais oui, il faut avoir des moments de répit et des passages à vide pour être inspiré, c'est vrai aussi.
Giono est important pour vous en général et Jean-Claude Helena, dans les années 90, vous découvrez l'un de ses textes, De certains parfums, publié en 70, juste avant sa mort. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce texte très peu connu de Giono?
Alors, c'est le dernier texte qu'il écrit, qui s'appelle « De certains parfums ». On peut le lire dans la Pléiade, mais on peut le lire ailleurs, je pense aussi. Et c'est une commande qu'il a reçue d'une société qui s'appelle, à l'époque, qui s'appelait Roure-Bertrand-Justin Dupont, qui aujourd'hui s'appelle Givaudan, qui est la plus grosse société de parfumerie au monde. Et il avait reçu une commande de cette société pour écrire quelque chose sur le parfum. Et il écrit « De certains parfums ». Il écrit 6 pages, 6 ou 7 pages. J'étais absolument admiratif. Mais alors, waouh, mais qui peut écrire comme ça sur le parfum alors qu'il n'est pas parfumeur? C'était pas de la jalousie. C'était vraiment
de l'admiration.
C'est de l'admiration, absolument. Et alors, il a une phrase terrible. Il dit dans laquelle était la phrase? C'est moi, il faut que ça me revienne. Oui, c'est les dieux et les hommes. Alors, les dieux font des parfums. Non, les dieux créent des odeurs, les hommes créent des parfums, nus et faibles. Voilà, c'est quelque chose comme ça, et ils font des parfums. Et dans cette phrase-là, toute petite, toute simple, tout est dédié et tout était compris sur la notion de parfum. C'est-à-dire, l'homme a besoin d'inventer en permanence pour être peut-être un dieu à sa manière, mais un dieu avec un petit dé.
Il est beaucoup question de Giono dans votre lexique. Par exemple, à l'entrée beau, vous citez un extrait d'un roi sans divertissement. On ne peut pas vivre dans un monde où l'on croit que l'élégance exquise du plumage de la pintade est inutile.
Je trouvais que c'était la métaphore était belle, l'image était belle. Mais oui, regardez autour de vous, regardez la vie, regardez autour de vous, regardez les paysages, regardez les fleurs. Oui, on peut prendre du plaisir juste en regardant un pissenlit fleurir.
À l'entrée érotisme, il est question d'odeur des femmes.
Oui.
Je crois que Giono vous a inspiré un parfum, cuir d'ange d'Hermès.
Oui, oui, oui. Alors, j'ai créé cuir d'ange d'Hermès dans la collection Renaissance. La raison derrière, c'est au début d'un écrit qui s'appelle Jean le Bleu, qui est sa biographie, mais romancée, évidemment. Alors, sa biographie, et puis il dit, il vénérait son père, il adorait son père, qui était cordonnier, il dit de son père cordonnier, mon père créait des bottes en cuir d'ange pour des dieux ailés. Des bottes en cuir d'ange pour des dieux ailés. Mais dans cette phrase-là, tout était dit. C'est-à-dire, Hermès était là, pour des dieux ailés, et des bottes en cuir d'ange, le cuir d'ange. Ah, un oxymore presque. Et comment je vais faire ça? Alors, j'ai travaillé très très longtemps sur ce parfum-là parce que il y avait le cuir, la note cuir est une composition qui existe dans la parfumerie depuis très 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 longtemps, en tout cas depuis les années 1920, et qui est un archétype de la parfumerie. Simplement, c'est un cuir dur, c'est un cuir de Russie, c'est un cuir dur. Et moi, je voulais un cuir très léger, très souple. Il fallait que ça soit souple comme une aile d'oiseau. Alors, c'est comment je peux faire un autre cuir souple comme une aile d'ange? Ça, c'était tout le travail. C'est-à-dire, oui, comment exprimer cette image-là? Et ça m'a mis 10, j'ai pris 10 ans pour le faire.
10 ans?
Oui. 10 ans. Alors, 10 ans, ça veut pas dire que j'avais l'idée au départ, mais c'était jamais assez bien. C'était jamais assez bien. Et tant que je suis pas content de ce que j'ai fait, je vais pas l'offrir. Je peux pas offrir quelque chose dont je ne suis pas content. Donc, voilà. Et donc, au bout de 10 ans, c'est, ouais. Là, c'est fait, c'est bon.
Jean-Claude Elena, il paraît que pour vous, le parfum, c'est un processus sémantique. Vous y faisiez allusion juste avant. Ça commence par des mots?
Oui, il y a une espèce de jeu qui se fait entre les odeurs et les mots. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous apprenez votre alphabet, enfin, votre vocabulaire des odeurs, vous mettez des odeurs en mémoire. Mais les odeurs en mémoire, il faut, pour qu'elles se construisent en concept, il faut mettre des mots. Et donc, les mots, c'est... au-delà de c'est du cuir, ça sent la carotte, ça sent l'orange, ça sent la mandarine, ça sent la rose, etc. Ça, c'est pas suffisant. C'est de loin pas suffisant, mais vraiment de loin, c'est pas suffisant. Le rouge, uniquement avec le mot rouge ou le mot bleu, c'est pas suffisant. Il faut que je mette d'autres mots derrière. Donc c'est, est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est puissant? Est-ce que c'est rêche? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est, est-ce grave. Que c'est velouté? Est-ce que il y a du montant? Est-ce que c'est nerveux? Il faut que je mette des mots là derrière sur chaque odeur. Ce qui fait que ça construit un petit à petit un vocabulaire et qui fait que quand je cherche de la douceur, alors, quel type de douceur je peux mettre? Ou quel type de nervosité je peux mettre? Quel type de montant? Quel type de sécheresse je peux mettre? Quel type de souplesse je peux mettre? Et j'ai mon vocabulaire. Mon vocabulaire me permet d'accéder aux matières, aux matériaux odorants qui vont me permettre d'exprimer ce que je sers, enfin, ce que j'essaye d'exprimer.
Voici un autre artiste ayant changé votre rapport au monde et cité dans votre lexique. Enregistrement de 1970 à Helsinki du morceau Emily par le pianiste Bill Evans. Émilie, trois syllabes, trois notes font le thème. C'est merveilleux. C'est ce que vous dites au sujet de ce morceau, Jean-Claude Elena.
Oui,
vous chantiez, là.
Oui, je chantais Émilie. Émilie, oui, voilà, c'est trois syllabes. Et d'un seul coup, on entend bien qu'avec trois syllabes, il fait trois notes de musique. Et trois notes de musique, c'est le thème. Le thème de la musique, c'est le thème du morceau. Et c'est là où je trouve vraiment la créativité. C'est-à-dire que je vais à l'essentiel, je vais jusqu'à l'épure, à l'essentiel, et à partir de cet essentiel-là, voilà, trois choses ensemble, et d'un seul coup, waouh, beaucoup. Et c'est généreux comme composition, c'est généreux comme musique. Et donc, toute ma recherche parfumeristique, ma manière de penser le parfum, c'est comment je peux exprimer un maximum de choses en peu de moyens. Ça demande des années et des années de travail. Parce qu'au départ, on a envie d'en rajouter, d'en mettre, parce qu'on est généreux. Donc je rajoute. Mais à la fin, c'est confus comme discours. Mais qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que j'explique? C'est quoi ton histoire? Et oui, mais j'entends pas ton histoire, je ne sens pas ton histoire. Voilà. Et donc, tout ce travail de... On revient, on cherche les purs, on cherche l'essentiel, et ça demande des années et des années de travail. Et à mon avis, c'est d'un seul coup, c'est là, comme ça, que vous devenez parfumeur, ou en tout cas, créateur de parfum.
Les purs dans presque tous les domaines?
Oui, dans tous les domaines, oui.
C'est la vraie maîtrise de l'art, finalement?
Mais oui, c'est ça, c'est la maîtrise de l'art, c'est-à-dire que... Alors, évidemment, quand je regarde la peinture chinoise ou la peinture japonaise, ou même quand je vais au Japon, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, le Japon, et je me sens barbare par rapport à leur manière de vivre, par rapport à l'art gastronomie qu'ils ont. Un rapport esthétique très, très, très fort. Et donc, c'est l'esthétique au quotidien. Merveilleux.
Est-ce que vous écoutez de la musique en composant des parfums?
Non.
Jamais?
Non.
Il faut que l'environnement soit neutre.
Alors, c'est très, très bizarre. Par exemple, si j'écris, par exemple, le livre que vous avez là, que j'ai écrit...
Parce que vous avez écrit plusieurs livres.
Oui, j'ai écrit plusieurs livres. Et la musique ne me gêne pas du tout. Ça me donne du confort par rapport à l'écriture. Quand je fais du parfum, c'est le silence absolu. J'ai besoin d'être très concentré et d'être uniquement dans l'odeur. C'est le seul moment où... Surtout pas de bruit.
Pas de saturation d'essence.
Non. Non.
Danse sacrée de Debussy, dirigée par Pierre Boulez, avec l'orchestre de Cleveland et à la harpe Alice Chalifou. Jean-Claude Elena, vous souriez à l'écoute de cet air qui vous accompagne depuis que vous l'avez entendu avec les danses profanes au musée d'Orsay, sous la direction de Pierre Boulez.
Oui, c'était un moment unique, un moment parfait, un moment où tout flottait. Et... Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que... On percevait non seulement la musique, mais la respiration des musiciens et en même temps la respiration du public à l'unisson. Respiration du public, respiration du musicien et respiration de la musique à l'unisson. C'était incroyable. Et là, il se passait quelque chose de... On veut plus que rien ne bouge. Il faut que...
De l'ordre de la communion.
Oui, c'est l'ordre de la communion. Bien sûr que c'est l'ordre de la communion. Et c'est un... Ah oui, c'était... C'est resté gravé dans la tête et difficile à m'en débarrasser. Je ne peux pas m'en débarrasser, c'est là, c'est... Et voilà.
Jean-Claude Elena, vous n'écoutez pas de musique quand vous composez des parfums, mais est-ce que la musique vous évoque des parfums ?
Non.
Non ?
Non, j'ai... Alors, oui et non. Alors, non d'un point de vue musique... Enfin, comment je pourrais dire ça ? Je veux dire, si j'aime Ravel, si j'aime Debussy, c'est parce qu'il y a une espèce de... Pas une espèce, il y a une clarté, une évidence, il y a un dépouillement dans la... Une nudité dans la manière de construire la musique qui fait que, tout de suite, ça me relie à la parfumerie que j'essaye de faire, que j'essaye de mettre en place, que j'essaye d'écrire. Parce que là, je me retrouve... Et je trouve que c'est ce que j'appellerais la parfumerie à la française. C'est-à-dire, en délicatesse, en élégance, en la justesse... Et la précision dans ce qui était fait.
Comme les jardins à la française.
Comme les jardins à la française, comme la couture à la française. Il y a, oui, le juste geste, la juste couleur, la juste proportion. Une espèce de... Voilà, c'est ça l'élégance à la française.
La mesure.
Et je trouve que cette musique-là est pour moi vraiment très française.
Jean-Claude Elena, il paraît que si vous étiez un morceau de musique, je le dis puisque vous venez de citer Ravel rapidement, vous seriez la valse noble et sentimentale de Maurice Ravel. Pourquoi ?
Mais pour les mêmes raisons, oui, pour les mêmes raisons. C'est, il y a cette notion de justesse, d'épure, et en même temps d'envolée. De... Oui, là ça me prend. Donc c'est pas pour le morceau, c'est pour la structure, la construction qui a été faite. Hein, c'est la construction qui m'intéresse. Et alors je suis toujours, quand vous parlez de construction, je suis intéressé par la construction. Que je sois en littérature, la construction littéraire m'intéresse tout autant que la construction en peinture.
Vous avez écrit des romans aussi.
Voilà. Et c'est au-delà de l'histoire, il y a plusieurs lectures dans un roman. C'est à la fois il y a l'histoire pour elle-même, et puis ensuite il y a la construction de l'histoire. Et quand on se base sur la construction de l'histoire, on apprend énormément de choses.
Mais qu'est-ce que vous avez appris avec Giono dans Un roi sans divertissement ? Je vous pose la question parce que c'est une construction excessivement complexe.
Oui, mais oui, je le reconnais que c'est absolument... Mais avec telle une précision, c'est... Ah, waouh ! C'est ça, c'est la précision du... Oui, je mets là le mot, là la virgule, etc. Et ça... Hein. C'est la maîtrise.
La maîtrise, oui.
C'est à nouveau la maîtrise, la notion de maîtrise. C'est je maîtrise ce que je fais, c'est-à-dire je sais exactement où je vais. Et là, ça devient intéressant. En tout cas, pour un compositeur de parfum, pour un écrivain, je pense que c'est la partie intéressante. Et oui, je prendrais cette notion, c'est je ne cherche pas à composer pour plaire ou pour faire plaisir, mais pour séduire. Ce qui est différent. C'est-à-dire, si séduire, ça veut dire je vous emmène avec moi sur un nouveau chemin. Et simplement ça. Si je cherche à vous séduire, c'est pour vous emmener avec moi sur un chemin nouveau et vous faire découvrir autre chose. Et ça ira pas plus loin que ça. C'est je vous emmène sur un chemin.
Comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. A lot can change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make them jealous. I'm the only one who does it how you like. You better lock your phone. You go. I'm sorry if it's torture though. I know. You better lock your door and look at me a little more. We both know I'm worth waiting for. That heavy breathing on the floor.
Bossa Nova de Billie Eilish sur France Inter. Nous sommes toujours en compagnie du créateur de parfums, Jean-Claude Helena.
L'embellie. Eva Bester.
Très souvent, il y a cette atmosphère très blonde, très dorée. Les horizons se mêlent. Très souvent, on ne voit qu'avec difficulté les sujets. C'est justement cette période, 1840-44, c'est la période de la naissance de la photographie. Et je pense que Turner a vu un autre moyen d'aller dans l'autre direction, de faire plus atmosphérique, de faire ce que le caméra ne pouvait pas faire. Et aussi, surtout, de faire intégrer un sens de temps et d'histoire, un sens des couches de temps.
L'historienne de l'art Penelope Curtis, conservatrice de la Tate Britain à l'époque de la rétrospective consacrée à William Turner, on l'entend dans l'émission Carnet Nomade de Colette Fellous diffusée en 2014 sur France Culture. C'est l'œuvre du peintre et graveur britannique que vous avez choisi quand on vous a demandé, Jean-Claude Helena, quelque chose de beau pour les auditeurs. Vous avez choisi notamment ces aquarelles qu'on trouve par dizaines de milliers à la Tate à Londres.
Oui, il y avait des raisons à ça, c'est que comme elle a dit, c'est un peintre d'atmosphère. Le parfum, c'est aussi sur le thème de l'atmosphère. Et puis ce côté éthéré, planant, nuage, hein, volant comme ça. Et c'est vraiment la notion du parfum. Et moi, je trouvais qu'il avait l'art de la tâche. L'art de la tâche, c'est-à-dire que... Et c'est ça, c'était surprenant, c'était merveilleux à voir. C'est-à-dire que je fais une tâche à tel endroit, j'arrive à maîtriser la tâche, alors qu'elle n'est non presque, pour quelqu'un qui se met à la peinture, elle n'est pas maîtrisable. Non, lui, il met la tâche là, et elle forme ce qu'il... La forme, elle prend la forme qu'il désire. Et il a la notion de la couleur, la notion de la tâche, il maîtrise tout ça. À nouveau, on revient toujours à la notion de maîtrise, mais avec un sens de la peinture qui est... Et puis on est dans l'illusion, on n'est pas dans la réalité, on est dans... Je saisis le monde qu'il me peint, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il y a une espèce de flottement que moi je trouvais, enfin que je trouve très 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 beau et qui me touche émotionnellement fortement. Et je cherche mes mots parce que avec les aquarelles de Turner, j'ai eu le syndrome de... Comment s'appelait-il de cet écrivain
Stendhal.
Stendhal, voilà, c'est le syndrome de Stendhal. Et la première fois que je les ai vus, j'étais tellement impressionné, tellement touché intérieurement, que je suis sorti en courant pour respirer.
Parce que le syndrome de Stendhal, c'est quand on est englouti par trop de beauté.
Oui, j'étais englouti par trop de beauté. Alors, je suis sorti en courant parce que j'en pouvais plus, j'étouffais. Je suis rentré à nouveau pour regarder. Je suis ressorti comme ça plusieurs fois. Et... Ah, c'était
de l'ordre du coup de foudre amoureux.
Oui, c'était de l'ordre du coup de foudre amoureux. Mais c'est un mauvais coup de foudre amoureux, parce que si je sors, elle aura disparu. Là, il était là, toujours présent.
On écoute la voix d'un autre individu peuplant votre équipement existentiel.
Une grille, c'est-à-dire quelque chose qu'on applique sur un message, qui en cache certains éléments, et qui n'en laisse apparaître que ceux qui sont signifiants. Si bien qu'on peut décoder un texte qui était fait pour ne pas être compris. Et alors, comme je le dis dès le début, l'homme n'a fait depuis qu'il existe sur la planète que utiliser des grilles, parce que dans le monde qui l'environnait et qui avait l'air d'un incompréhensible et désordonné, il a bien fallu qu'il ait un moyen de décoder ce qui était devant lui.
Le médecin chirurgien et neurobiologiste Henri Laborie sur France Culture en 1975. Selon vous, Jean-Claude Elena, pour être armé dans l'existence, tout le monde devrait lire son ouvrage de 1974, La Nouvelle Grille, dans lequel il vulgarise ses recherches en biologie comportementale. Pour mieux comprendre les rapports humains, puisque bon, on se rend compte quand même que le cerveau fonctionne en gros pour dominer. Surtout, enfin, pour se conserver, maîtriser, voilà. Puis dominer l'autre.
Maîtriser.
Ouais, maîtriser, oui.
Maîtriser, pas forcément dominer. Mais il y avait des mots tout de suite qu'il a dit, le besoin de grille, le besoin de décodage. Vous faites de la parfumerie, vous avez besoin de décoder les odeurs, j'ai besoin d'une grille de lecture, que je vais bâtir et puis ensuite restituer, donner, offrir. Et si j'arrive à la faire comprendre, si j'arrive à la faire passer... Oui, c'est gagné. Mais ça prend énormément de temps, entre le moment que je décode, je mets en grille, etc., que je le redonne. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi d'autres notions qu'il apportait, c'est que dans ce qu'il écrit, il dit, mais au niveau humain, toutes les cellules du corps humain ont les mêmes informations, tant au niveau du cerveau qu'au niveau de l'orteil du pied. Chacun reçoit la même information. Simplement, l'orteil va faire ce qu'il a à faire, et le cerveau va faire ce qu'il a à faire. Mais il reçoit la même information. Donc, j'aimais cette idée, c'est-à-dire que on perçoit la totalité des informations, mais chacun fait le boulot qu'il a à faire. Et oui, ça a joué dans ma manière de concevoir non seulement le parfum, mais le travail en équipe, le travail à plusieurs. C'est-à-dire, voilà, tout le monde a la même information, mais chacun fait le boulot qu'il a à faire. Et alors, ça marchera très bien.
On mettra évidemment la référence sur le site. Jean-Claude Elena, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie. Et vous avez répondu, ma vie, elle est faite, je la continue. Elle est faite ? Mais non. Tout peut arriver.
Non, mais tout peut arriver, mais elle est faite dans le sens de... Je suis rentré à l'âge de 16 ans en parfumerie. Je dirais presque que je suis rentré en religion avec la parfumerie. J'ai défendu cette manière de penser, cette manière de voir, cette manière de respirer, cette manière de sentir, etc. etc. Et je porte toujours ce besoin de partager ce savoir que j'ai acquis. Et tout tourne autour de ça. Donc à la fois le parfum m'a construit, j'ai construit du parfum. Et quand je dis elle est faite, c'est... Elle n'est pas terminée, non. Mais... C'est pas mal déjà.
Ah oui. être à sa place, c'est ce qu'on cherche tous, de trouver sa place.
Oui, j'ai trouvé une place. Et je suis bien assis.
Je vous ai demandé un engagement à la sortie de cette émission. Et vous avez répondu, à 75 ans, j'ai déjà pas mal d'engagements, je ne vais pas me répandre, mais réaliser ceux en cours. Est-ce qu'on peut en connaître un ou deux ?
Alors, quand je disais ça, c'est-à-dire... Il y a aussi il y avait la notion de ne pas me répandre. C'est-à-dire, il y a quelque chose que j'ai toujours défendu, surtout avec des jeunes parfumeurs, puisque là, je parle de parfum, c'est ne vous répandez pas. C'est-à-dire que quand vous avez une idée dans la tête, vous la poursuivez, vous la retravaillez, vous la laissez de côté, mais vous la retravaillez. Si vous vous répandez, vous n'allez rien faire. Il n'y a pas d'aboutissement. Donc, c'est tenez votre projet. Et puis, bien sûr qu'on peut changer de projet, mais... Se répandre, c'est se liquéfier, se disparaître. C'est hop, on disparaît dans le sable et voilà.
Vous n'avez jamais fait plusieurs projets en même temps ?
Si, mais pas beaucoup.
Mais ça a quand même parfois fonctionné.
Oui, mais c'est 2-3, pas plus.
Oui, mais 2-3, c'est possible.
2-3, c'est possible, mais 2-3, c'est pas beaucoup.
Oui.
C'est ce que je... Enfin, c'est... Voilà. Et donc, ne pas se répandre, c'est ne pas suivre 1000 idées à la fois. Et c'est plutôt une idée, et puis de la construire, oui, vraiment de la construire, cette idée. Et l'autre chose, c'était, à l'heure actuelle, c'est, je partage ma vie entre ma vie, mon épouse, le jardin, l'écriture, le parfum. Waouh, ça suffit.
Et la pratique de la musique
Et la pratique de la musique, ça a été mis de côté.
Et de la peinture?
Oui, un peu. Ça fait trop.
Non, c'est bien.
Oui, c'est pas mal.
C'est un bon équilibre à la française.
Oui.
Merci beaucoup d'être venu, Jean-Claude Elena.
Merci à vous. Merci beaucoup, Eva. Merci.
Je rappelle que vous venez de publier avec Lionel Paillès, Petit lexique des amateurs et prix d'odeur et de parfum aux éditions Actes Sud. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission et nous, comme toujours, sur les réseaux sociaux. C'est là où on vit 24 heures sur 24 en dehors des émissions, car nous ne sommes pas des êtres organiques. J'espère que vous êtes aussi satisfait qu'un trombone ayant découvert comment ne jamais se réincarner. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.